la nécessité de mettre un terme au crime de Bachar el-Assad.
Il faut dire que la façon dont les choses nous étaient présentées à travers les infos, c'est quand même, il y avait les bons d'un côté, Anne-Cécile, les mauvais de l'autre, les méchants de l'autre, et il est tout à fait normal d'avoir envie de battre les méchants, surtout des méchants très 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 méchants comme ceux-là.
Le problème, c'est qu'on n'en finirait pas. Il y a tellement de méchants sur la planète que si on voulait tous les renverser, il faudrait qu'on soit tous les matins en train de bombarder tel ou tel pays ou tel ou tel régime. Il y a en République démocratique du Congo une guerre qui dure depuis pratiquement 20 ans, qui a fait des millions de morts. Personne ne songe à aller bombarder Kigali au prétexte que ce serait le Rwanda qui serait responsable de la guerre en République démocratique du Congo. Donc on ne peut pas faire fonctionner la société internationale sur l'idée qu'on va renverser tous les régimes qui nous déplaisent, même si ce sont effectivement des régimes odieux. Et ce qui est préoccupant dans l'attitude de la diplomatie française, c'est qu'il y a un renversement un petit peu des priorités. La nécessité de défendre les droits de l'homme, qui est effectivement extrêmement importante, on ne peut pas laisser se commettre des crimes, passe devant la nécessité de préserver la sécurité internationale, de préserver les bonnes relations. Et du coup, on fait prendre des risques à la société internationale, des risques extrêmement importants, de la même manière que George Bush, au nom de « on va se débarrasser de Saddam Hussein », a plongé l'Irak dans le chaos, a accru le dynamisme de tous les terroristes et des djihadistes. Effectivement, sur le terrain des droits de l'homme, il avait sans doute raison de vouloir se débarrasser de Saddam Hussein, mais du point de vue géopolitique, cette attitude était parfaitement stupide. Et la France est, dans l'affaire syrienne, complètement à rebours de son rôle historique. Si on pense à ce qu'avait fait Jacques Chirac au moment de la guerre en 2003, il avait au contraire rappelé la nécessité de défendre le droit international, de défendre les Nations Unies.
C'était le temps où les Palestiniens nous acclamaient quand on était en reportage à Gaza. Ils disaient « Chirac, Chirac !» On était très flattés, nous, en tant que reporters français, d'être salués de cette façon.
Mais partout dans le monde, moi j'avais rencontré des diplomates sénégalais qui m'avaient dit « on est fiers de vous ». Un renversement assez sympathique. Mais la France, avec Sarkozy déjà au moment de la Libye et François Hollande avec la Syrie, est en train de changer de discours international, à mon avis, à son détriment. Parce que l'une des raisons pour lesquelles la France justifiait quelque part sa place à la table des grands au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était parce qu'elle avait une voix différente. Une voix qui était celle du droit, des Nations Unies, etc. Et changer de discours risque de lui faire perdre cette position qu'elle avait et peut-être même de la contraindre à sortir de la scène internationale.
France 24.
Ils réclament l'indépendance de la Catalogne et pour se faire entendre, ils ont choisi de former une immense chaîne humaine.
11 septembre 2013.
Main dans la main, les indépendantistes portent les couleurs et les rêves de cette province du nord-est de l'Espagne. Partie du sud, la chaîne remonte jusqu'au col du Pertus, 400 km plus loin, en passant par Barcelone. Et ils sont des centaines de milliers au rendez-vous, convaincus que Madrid finira bien par entendre leur souhait d'obtenir un référendum dès 2014.
Ce que l'on veut, c'est que le peuple décide, que les Catalans aient la liberté de choisir leur avenir.
Forts de leur langue, de leur histoire et de la richesse économique de leur province, aujourd'hui, plus d'un Catalan sur deux pense qu'il vivrait mieux en coupant les ponts avec l'Espagne. Mais pour l'heure, Madrid ne veut pas entendre parler d'un référendum. Ce serait, affirme le gouvernement conservateur, contraire à la Constitution.
Jean-Sébastien Mora, la société catalane, se rallie à l'indépendance. Il faut rappeler que la Catalogne, de toutes les régions d'Espagne, est la plus riche. Voilà. Et que les Catalans, on peut les comprendre, n'ont pas tellement envie de payer pour les autres, pour les pauvres andalous et autres régions de ce pays.
Bon, évidemment, il y a la question économique qui a un petit peu catalysé, accéléré le fait indépendantiste. Mais comme je le replace dans l'article, en fait, comprendre l'indépendantisme catalan, c'est remettre en perspective, dans une perspective historique, le nationalisme catalan. Il y a une histoire singulière à la Catalogne au sein de l'Espagne. Il y a notamment la révolution industrielle qui débute en Espagne, en Catalogne, qui fait que la bourgeoisie catalane perçoit son identité culturelle et linguistique comme moderne et qu'elle veut se singulariser d'une Espagne qu'elle considère comme rentière ou post-féodale. C'est ce qui donne le mouvement d'avant-garde de la Renaissance, comme on dit en catalan, c'est-à-dire c'est un mouvement qui s'inscrit dans le romantisme européen et qui donne les lettres de noblesse à l'identité catalane et à sa langue. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui en Catalogne, c'est que le mouvement indépendantiste est très fort,